d'histoire, actualité comme tous les vendredis, mais en ce vendredi, actualité de la fiction d'histoire avec notre table ronde de fiction mensuelle. Après un nouveau petit précis d'histoire à l'usage des politiques, nous ouvrirons notre table ronde fiction de décembre avec Victor Massé de l'Épinay de la Fabrique de l'Histoire, Alette Farge, directrice de recherche au CNRS, Fabrice Dalméda, professeur d'histoire à Paris 2, et Étienne Anheim, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et directeur de la revue Les Annales. Avec eux, nous débattrons de la dernière création du Théâtre du Soleil et d'Ariane Nouchkine, une chambre en Inde, inventée par toute l'équipe du Théâtre du Soleil au lendemain des attentats de novembre dernier, lors d'un long séjour en Inde, une œuvre à la fois pessimiste et curieusement joyeuse qui, face au tragique de notre temps, choisit de proposer un rire assez libérateur. Puis nous traiterons de la réédition chez Delcourt du Sourire des marionnettes de Jean Dittard, qui nous raconte une nouvelle fois, puisque c'est un sujet récurrent des fictions d'histoire, l'histoire de la secte des assassins. Enfin, nous parlerons de Go Home, le dernier film de Jian Schweb, qui fait ressurgir les fantômes de la guerre du Liban. Mais tout de suite, pour commencer cette émission, bien entendu, le petit précis d'histoire à l'usage des politiques.
105. Allez-y, madame. Mettez votre enveloppe dans l'urne. À voter.
François Mitterrand.
Petit précis d'histoire à l'usage des politiques.
Vous
comptez les deux registres ?
François Mitterrand. Est-ce qu'on fait dans les épingles ?
Non.
Oui, mais pour les recompter après.
On
a 5 et on a 3 lots. D'accord.
Ça fait 7. Il est 20h, le scrutin est clos.
Il n'est pas 20h, mais 9h09 et nous retrouvons, pour ce petit précis d'histoire à l'usage des politiques, Pierre-François Souhiri, professeur à l'Université de Genève et spécialiste du Japon. Quelle histoire de vote allez-vous nous raconter ?
Eh bien, une histoire un petit peu différente peut-être à celle à laquelle vous pouvez vous attendre. Nous sommes en 1384, dans le Japon de l'Ouest, sur le mont Koya, là où se trouve l'un des complexes religieux bouddhistes les plus puissants de son temps, l'un des quartiers généraux de l'école Shingon, fondé au début du 9e siècle. La nuit est déjà tombée. Tous les moines se rassemblent dans la cour à la lueur des torches. Ils sont convoqués pour participer à un scrutin important. Le mot existe en japonais médiéval, gaten, c'est-à-dire mot à mot, rassembler les votes. Revêtus de leur habit monastique, la tête à moitié cachée par une étole, leur visage est difficilement reconnaissable. Les torches projettent la vision déformée de leur silhouette. Tour à tour, ils devront prendre la parole pour exprimer leur avis sur la question qui leur est posée. En l'occurrence, ce soir-là, que faire d'un régisseur domanial, un homme de bonne famille, récemment nommé par les moines à la tête du domaine de Kogi, accusé de garder pour lui une partie des redevances normalement affectées à l'entretien du monastère. Faut-il le limoger sur le champ ou le maintenir en fonction avec obligation de rembourser les impayés ? On commence par vérifier que tous les moines convoqués sont présents. Tous connaissent le lieu, l'heure de l'assemblée ainsi que son propos. Le jour dit, au moment dit, on fait résonner le gong pour indiquer l'ouverture de la séance. Les assemblées monastiques de ce genre reposaient au Moyen-Âge sur une procédure qui pouvait varier légèrement d'un établissement à l'autre, mais on était très strict sur la présence. Au Toji, un autre temple important de l'école Shingon, le règlement précise que les moines devront se présenter dans le temps que brûle un bâtonnet d'encens d'environ 6 cm, à partir du moment où résonne le gong annonçant le début de la réunion. Ceux qui se présentent en retard sont considérés comme absents et frappés d'une sanction. En cas d'absence, exception faite de cas de force majeure, maladie ou voyage, il fallait présenter un exposé des motifs justifiant la non-participation à l'assemblée. En cas de refus de l'excuse ou en cas d'absence injustifiée, on était condamné à payer une amende. Par exemple, offrir aux organisateurs de la séance des fioles de saké. Ou bien être astreint à faire chauffer l'eau de l'étuve. Ou bien parfois payer en monnaie. Plus grave encore, on pouvait se voir confisquer le droit de participer à l'assemblée et même se faire expulser du monastère. Les règles étaient claires. Il faut se conformer aux décisions prises ensemble ou, à défaut, se conformer aux décisions de la majorité. Les décisions importantes étaient donc prises collectivement car on pensait qu'elles avaient d'autant plus de force que le nombre des participants était grand. Vient alors le moment des palabres. Le règlement indique qu'il faut pouvoir exprimer le fond de sa pensée sans craindre les puissants. Les moines ne doivent pas tenir compte de leur degré de proximité familiale, amicale ou régionale avec celui qui est censé avoir commis un délit, ni refuser d'exprimer son avis par timidité, ni parce que l'on se pense minoritaire. C'est la raison pour laquelle le scrutin doit se tenir la nuit, pour éviter d'être reconnu. Dans certains monastères, quand la décision à prendre est difficile, on incite ceux qui prennent la parole à changer volontairement le ton de leur voix pour rendre leur déclaration plus solennelle, mais aussi pour parler sans craindre d'être reconnu. Dans la société médiévale japonaise, il y a toujours un risque à s'exprimer, surtout si l'on parle contre un puissant. Refuser de prendre la parole ou refuser de voter n'est pas toléré. La procédure n'admet ni l'abstention, ni le vote blanc. Après que les moines aient tous parlé, on procède au scrutin proprement dit. Les participants de la réunion doivent tracer eux-mêmes un trait au pinceau en face de la colonne adéquate sur le bordereau de vote. Le résultat est clair ce soir-là, 41 votes en faveur du limogeage immédiat du régisseur, 23 en faveur de son maintien. Le régisseur du domaine de Kogi est licencié sur le champ comme résultat du vote de l'Assemblée générale des moines du Mont Koya. De pareilles pratiques à la majorité des participants reposaient sur le principe selon lequel les membres de l'Assemblée, au-delà de leur statut social d'origine et de leurs liens familiaux, étaient égaux entre eux. One man, one vote. Mais la décision de la majorité était absolue. Elle était censée refléter ce qu'on appelait Ichimi Doshin, c'est-à-dire l'unanimité des esprits. La décision prise collectivement possédait une force qui transcendait les avis ou les intérêts personnels. L'on considérait que le résultat du vote exprimait le sentiment des divinités. Voter, c'était exprimer l'avis des Bouddhas et des dieux. Aller à l'encontre de pareilles décisions risquait de provoquer la colère divine. Telle était donc la pratique dans les monastères du Japon médiéval. Alors, la démocratie comme invention de l'Occident, à voir quand même, et de très près.
Merci beaucoup Pierre-François Souhiri, et c'est un peu un hasard si vous êtes là ce jour-ci, un jour de table ronde fiction, mais votre description de ce vote était tout à fait suggestive, et on pourrait suggérer à un metteur en scène de cinéma, par exemple, de mettre en scène les torches qui projettent la vision déformée des silhouettes des moines, ou encore le gong et le bâtonnet dansant. Merci beaucoup Pierre-François Souhiri pour cette chronique petit précis d'histoire à l'usage des politiques que vous pouvez retrouver sur notre site séparément de l'émission du jour. Un extrait du théâtre, je pense qu'on prononce Terukotu, donc qui est ce théâtre qu'a découvert, dit-elle, Ariane Nouchkine avec sa troupe en se rendant au tout début de cette année en Inde. L'ensemble de la troupe du Théâtre du Soleil s'est rendu en Inde pour, à la fois, on le comprend dans les propos qu'elle tient dans la presse depuis que cette pièce qui s'appelle Une chambre en Inde vient d'être créée au Théâtre du Soleil, à la fois pour peut-être réagir, exorciser l'horreur de ce qu'a ressenti Ariane Nouchkine et l'ensemble de sa troupe après les attentats du mois de novembre de l'année dernière, mais aussi parce qu'il était prévu de créer une pièce justement avec l'ensemble de cette troupe, et c'est ce que nous raconte cette nouvelle création du Théâtre du Soleil, donc Une chambre en Inde. Bonjour Victor Massel-Lépiné.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour à vous Fabrice Dalméda.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour à vous Étienne Anaïm.
Bonjour Emmanuel.
Et bonjour Arlette Farge.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous donc pour cette table ronde sur les fictions d'histoire et pour cette première fiction d'histoire. Alors est-ce vraiment une fiction d'histoire? Parce que Fabrice Dalméda, en l'occurrence, Ariane Nouchkine insiste beaucoup sur le fait que c'est une pièce, dit-elle, d'actualité. Donc, est-ce que l'actualité a quelque chose à voir avec l'histoire? C'est ce que nous allons tenter de comprendre en discutant tous ensemble autour de ce Théâtre du Soleil et de cette chambre en Inde.
Je sais qu'on s'était, il y avait une espèce de convention au départ dans notre rencontre, c'était qu'on ne faisait pas de jugement esthétique, mais quand on est face à une telle œuvre, exceptionnel.
Telle beauté.
Quand on est face aussi aux événements intérieurs que ça provoque, c'est-à-dire de la joie, de la tristesse, du bonheur, enfin que ça, c'est transportant, c'est exceptionnel. Donc ça, c'est ce qu'il faut dire pour commencer. Et ensuite, on peut rentrer dans le domaine de ce qui nous agite, c'est-à-dire un petit peu de pensée, un petit peu de débat. Et c'est vrai que ce qui m'a frappé, alors je ne sais pas si c'est une pièce historique, mais en tout cas, il y a de l'histoire dedans.
Bien sûr.
Il y a du contexte, il y a de l'historicisation, et il y a, je pense que ça parle de notre époque, donc ce serait l'histoire du temps présent pour le dire sous une forme que j'apprécie particulièrement. Et donc, ce que je trouve très frappant dedans, c'est deux choses. D'abord, ce qu'on pourrait appeler la chronologie des événements, celle à laquelle nous sommes habitués en tant qu'historiens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont allés s'installer, on le reconstitue au fur et à mesure de la pièce, qui sont partis en Inde pour essayer de trouver un nouveau modèle, pour essayer de se nourrir, et puis tout d'un coup, il y a des informations qui viennent. Alors qui viennent, ça fait rire toute la salle en général par un petit coup de fil d'une dame qui s'appelle Astrid. Donc là, ça provoque une espèce de petite agitation. On a des informations sur ce qu'est notre bureaucratie internationale, culturel, avec un malheureux conseiller culturel dont on devine qu'il va être bientôt pendu par son administration.
Parce qu'il a osé donner de l'argent à cette troupe qui ne produit rien pour l'instant.
17 000 donc. Et quelques euros, ouais. Et avec ça on pourrait nourrir une famille indienne pendant 34 ans, etc. Enfin bref, il y a tout un débat là-dessus. Ensuite, il y a l'ordinateur dont on voit la petite lumière éclairer le visage et qui émeut. Et puis, il y a aussi l'autre information, celle de là où on est. Et on est en Inde. Et donc, on s'aperçoit du décalage entre l'information importante pour l'Inde, le débat entre le BJP, donc les nationalistes hindous, les musulmans, la position des femmes en Inde, etc. Donc, on a cette chronologie-là. Et puis, il y a l'autre chronologie, qui est celle des émotions. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, cette chronologie des émotions, c'est-à-dire à quel moment on réagit dans une partie du monde à un événement, comment il réagit, est-ce qu'éventuellement cet événement, on peut y être même indifférent. Mmh. Et c'est ça qui est très très frappant, c'est que cette troupe française vit au rythme de Paris, du 13 novembre, des événements qui nous bouleversent tous, et puis de l'autre côté, la société indienne avance avec son propre rythme, avec son spectacle et avec ses vaches.
Étienne Anaïm, à propos d'une chambre en Inde, donc cette nouvelle création collective, il faut bien le souligner, du théâtre du Soleil et d'Ariane Douchkine.
Moi, je partage l'avis de Fabrice sur la réussite éclatante de ce spectacle. C'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose qui se passe dans la salle et qu'il faut dire également, c'est qu'on rit énormément. Et ça, c'est quelque chose de fascinant, étant donné le propos.
C'est-à-dire façon tragique,
voilà,
effectivement.
Quand on arrive,
Ariane Douchkine et la troupe choisissent.
On voit qu'il s'agit quand même, effectivement, d'une pièce sur les malheurs du temps et en particulier sur la situation d'après les attentats. Imaginez qu'on va rire autant pendant 4 heures, c'est quelque chose qui est totalement bouleversant en réalité intérieurement. Et puis alors c'est aussi une pièce d'histoire pour répondre à la question, parce qu'en fait c'est une pièce qui traverse toute l'histoire du théâtre, le théâtre grec, le théâtre classique. Alors il y a un certain nombre de personnages qui apparaissent comme Shakespeare, Tchekhov, parce que...
Chaplin
à la fin. Parce qu'en fait la toile de fond de cette pièce, pour expliquer aux auditeurs qui l'ont pas vu, c'est cette femme qui est dans sa chambre et en fait
en Inde, qui
hérite de la responsabilité d'une troupe théâtrale parce que son directeur vient de l'abandonner et qui est terrorisée par ça et qui fait une sorte de cauchemar ou de rêve tout au long d'une nuit et qu'on voit successivement incarné par des figures. Donc il y a des figures du théâtre qui traversent tout le long de la pièce et qui proposent une réflexion historique sur ce que c'est que le théâtre et ce que peut être le théâtre aujourd'hui. Et là où je trouve que les choses sont impressionnantes, c'est qu'a priori, on part de l'idée que peut-être ça va être un peu ennuyeux, cette réflexivité un peu lourde, que ça raconte l'histoire du théâtre.
C'est-à-dire que
le théâtre,
quand les historiens réfléchissent à leur art,
ils sont bon, moi, j'avais lu l'article de Libé, l'article du Monde, je suis arrivé en me disant peut-être que tout ça va être à la fois un peu didactique et un peu intellectuel. Et en fait, c'est extraordinaire parce que c'est complètement effacé dans l'énergie et le rire de la pièce. Et on peut ne rien connaître à l'histoire du théâtre et trouver ce spectacle magnifique, extraordinaire.
40 participants sur scène, il faut le rappeler, pendant 4 heures. Arlette Farge, qui avait évidemment vu beaucoup de pièces d'Ariane Douchkine, celle-ci s'ajoute à toutes les autres. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette chambre en Inde créée au Théâtre du Soleil?
Oui, c'est très difficile de parler après Fabrice Almeida. Et la deuxième intervention, c'est... pour ne pas répéter des choses, bon, d'abord, effectivement, rien qu'entrer dans le lieu précis, pour moi, d'une génération, Bon, c'est complètement la nostalgie, les années, voilà, les tous les spectacles qu'on a pu voir de 1789 à tant d'autres, etc. Donc là, moi, je croyais qu'elle allait être finie, cette magie, pour moi. J'avais, bon, c'était fini. Waouh, ben, on est pris comme ça, à l'entrée, par quelque chose de d'émouvant et pourtant de si présent, enfin, qu'on a déjà vu. Bon, enfin, je veux dire l'entrée, hein.
Bien sûr.
La soupe qu'on va manger ensemble, les odeurs, les lumières, les maquillages des comédiens sous notre regard, etc. Bon. Et pourtant, j'étais partie à petits pas, quoi. Hein, je m'étais dit, bon, c'est Mouchkine, et que j'aime beaucoup, hein. Et puis, bref, j'étais comme vous deux, bon, absolument ahurée dès que le rideau s'est levé. Quelle beauté de décor.
C'est une beauté impressionnante.
Quelle merveille. Ça, c'est vraiment très important, avec des jeux de lumière formidables par des fenêtres qui s'ouvrent et qui se ferment, soit quand le monde entre dans cette pièce où cette pauvre directrice de théâtre est absolument sous sa couette, enroulée dans sa couette. C'est formidable, d'ailleurs, de passer 4 heures, je pense, pour une comédienne sous la couette et de réagir au téléphone et aux événements, comme on l'a dit. Donc, je trouvais déjà ça, bon, j'étais très très impressionnée. Et puis ensuite, évidemment, je me suis dit, c'est pas possible qu'on va pas rire de la folie du monde, comme ça posait une vraie question. Et j'avais peur de ce rire. Ça m'amuse pas de rire de la violence du monde. Donc j'attendais.
Il faut dire qu'il y a régulièrement des djihadistes qui interviennent. Mais
voilà.
Il y a régulièrement même le tournage d'un film de propagande de Daesh, etc.
Absolument.
Tout un tas de scènes,
oui,
effectivement.
Il y a une violence qui arrive sur scène et on n'a pas envie de rire. Parce qu'on se rappelle, nous, le 13 novembre, on se rappelle, comme elle le fait remarquer. Et donc, c'est un défi qu'elle donne, c'est un challenge. Et les acteurs sont absolument remarquables, comme toujours la musique. Bon, vous êtes pris cœur, corps et âme. Bon, la musique complètement touchante, forte, les danses extraordinaires, les costumes, bon, voilà. Alors moi, j'étais... ouais, je sais pas comment dire, émerveillée. Et en même temps, j'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a juste, mais c'est vraiment tout petit ce que je vais dire, c'est histoire de... J'ai trouvé une petite faiblesse dans le texte, que par moment, moi, bon, si j'avais voulu aller jusqu'au bout de mon désir, ou tout du moins qu'Ariane aille jusqu'au bout du mien, ça aurait été que quelque chose d'autre que la dénonciation arrive, que quelque chose soit vaguement proposé, même si la fin donne des éléments. Et ça, je me suis dit, Ariane et sa troupe, ils pouvaient le faire. Ils l'ont pas fait. Est-ce que nous pourrons le faire?
Oui,
mais sans quoi, c'est...
Parce que tout de même, effectivement, ça part d'un constat extrêmement pessimiste sur l'état du monde, puisque effectivement, plus que le dernier caravansérail, plus que tout un tas d'autres œuvres du Théâtre du Soleil, il y a là effectivement le constat que quelque chose, c'est d'ailleurs dit dans le texte, nous allons assister à la chute fracassante de nos rêves, donc en l'occurrence. Donc nos rêves sont en train de se fracasser, les rêves de la génération d'Ariane Mouchkine, mais nos rêves aussi d'une certaine façon, et avec cette idée que la seule solution de se tirer face à ce tragique du monde, c'est de prendre le parti d'en rire, d'une certaine façon. Un rire qui n'est pas de l'ironie, d'ailleurs, mais qui est un véritable rire franc, comme dans le cinéma de Chaplin. Et c'est ça qui est très fort. Mais effectivement, ça ne propose pas de solution, d'une certaine façon, pour en sortir. Victor Massé-Lépiné, puis on refait un tour de table.
Oui, moi, je ne veux pas ajouter au consensus. J'ai évidemment beaucoup apprécié cette pièce. Pour répondre tout de suite à Arlette Farge, peut-être une idée qui me vient. En effet, dans le texte, il n'y a pas tellement de réponses, mais il y a d'abord une sincérité qui est totale. Ça appuie un peu ce que disait Étienne Anaïm. Il n'y a pas d'intellectualisation un peu posée. Et ça, c'est emporté par la sincérité totale d'Ariane Mouchkine et de toute sa troupe qui se pose des questions, qui assume quelquefois une certaine grandiloquence qu'on pourrait aussi critiquer. Mais oui, quelquefois, quand on se pose des questions sur le monde, on est tenté, on a envie d'être grandiloquent et c'est aussi sur la scène. Je pense néanmoins qu'il y a quelque part une réponse qui nous est confiée, puisque il y a quelque chose d'une expérience collective quand même quand on est tous là, et on sort quand même avec l'idée d'une réponse ou l'idée d'un possible, et qui est plus de l'ordre de l'expérience sensorielle, commune. Esthétique, commune en tout cas, que purement dans le texte.
Étienne Anaïm et puis Fabrice Delmena. Étienne Anaïm.
Mais je crois que ce que Victor vient de décrire, en fait, ça s'appelle la catharsis au sens oui, le plus évident. Et je l'ai rarement ressenti de cette manière.
Oui, c'est-à-dire, c'est tout à fait
on
vrai.
Lit des textes sur l'Antiquité, on nous dit le théâtre grec. Et alors là, on fait une expérience qui ressemble à ce que les gens racontent du théâtre grec. C'est-à-dire qu'on arrive tous ensemble, on nous présente une pièce qui parle exactement de nos événements, ce qui était le cas du théâtre grec ancien et qui n'est pas très souvent le cas du théâtre contemporain. Et on vit une expérience extraordinaire. Et je pense que c'est cette expérience qui vaut réponse, en quelque sorte. C'est-à-dire que je comprends la préoccupation qui vient d'être faite à cet instant sur le problème de la réponse ou pas de réponse d'Arlette. Mais il me semble que justement le fait qu'il n'y ait pas de réponse et qu'on ait cette pulsation qui alterne sans cesse le rire d'un côté, mais comme dans Jarry, hein, comme dans Aristophane, et puis d'un autre côté, cette beauté du théâtre indien, il faut dire que les passages chantés sont extraordinaires, les femmes
époustouflantes,
c'est superbe. Et donc c'est on a sans cesse cet aller-retour entre le chant et puis le rire qui fait qu'on sort effectivement ravi.
Fabrice Dalméda.
Oui, il y a
à propos d'une chambre en Inde, donc montée par le théâtre du Soleil.
Il y a la beauté, et puis il y a quand même ce qui qualifie notre monde, moi qui me frappe. Alors Arlette a dit la gravité que ces événements historiques provoquent en nous. Et puis, quand même, l'un des aspects qui rythme la pièce, c'est la bureaucratie. C'est-à-dire qu'elle reçoit ce questionnaire. Et dans ce questionnaire, un questionnaire. Alors, comme ils sont financés par le ministère de la Culture, enfin, par les affaires étrangères, on imagine un institut culturel perdu en Inde, par un pauvre homme qu'elle remercie d'ailleurs dans les remerciements, il est remercié, donc il existe vraiment cet homme qui a dû avoir très peur du budget qu'il avait mis dans le montage de la troupe. Comme ils sont financés, ils doivent rendre un rapport.
Oui, l'enquête du ministère sur la rentabilité des établissements culturels à l'étranger.
Et dedans, il y a une question, c'est à quoi sert le théâtre par rapport à ce qui se passe en Syrie, en Irak, etc., etc. Et donc la pauvre Cornelia, donc le personnage de la metteur en scène, se demande à quoi sert le théâtre. Et c'est vrai que c'est une bonne question, c'est celle que nous nous posons aujourd'hui, avec cette idée que est-ce que la catharsis peut durer, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut changer durablement. La plupart des gens de théâtre ont considéré finalement que non, et qu'à la limite, il fallait simplement être dans l'événement. En même temps, moi ce qui me frappe, c'est que la philosophie, et c'est peut-être ce que dit d'ailleurs Ariane Mouchkine dans une ou deux interviews, c'est qu'il y a cette dimension du rire contre la gravité de ce que nous traversons. Et c'est vrai que les gens sérieux...
Et Shakespeare, dont il faut dire qu'il monte sur scène en l'occurrence, lui dit il faut se moquer des méchants, en l'occurrence. Et que c'est justement la meilleure façon de répondre justement à cette question.
Alors
de
moi
la
je vais
gravité
faire un pas de plus, je vais dire c'est pas seulement des méchants qu'il faut se moquer, mais c'est des gens graves en général. Parce qu'en fait, tous ceux qui aujourd'hui sont d'une grande gravité, c'est-à-dire en fait le bureaucrate, l'académique au sens le plus académiste du terme. Parce qu'on les subit quand même en ce moment. Enfin,
Il n'y a pas une catégorie des bureaucrates, comme on dirait une catégorie des historiens.
On dirait qu'il n'a pas vécu mai 68. La bureaucratie, pour les anti-staliniens, c'est quelque chose.
Ouais. Arlette Farge, à propos de cette réponse possible, justement, avec ce dialogue à ce moment où la metteur en scène, Cornelia, dit « Celui qui dit que le théâtre n'est pas indispensable, on le zigouille. »
Je voudrais dire quelque chose, c'est-à-dire que je pense que c'est vraiment là la pensée profonde d'Ariane Mouchkine qui est dite là, c'est elle qui parle, parce que j'avais eu l'occasion à Avignon de faire un débat avec elle sur l'histoire, et elle avait dit devant un public un peu étonné que c'était pas la peine que l'histoire existe, si le théâtre existait, il n'y a pas besoin d'histoire. Alors moi, comme je faisais débat avec elle, on avait discuté, mais bon, elle avait garde cause sur moi, parce que c'est quand même une personnalité extrêmement... Et je voulais juste dire une autre chose sur cette impression qu'on a à la fin, qu'on est tous ravis, je crois que le mot a été dit ici. Et alors, en même temps, je crois aussi qu'on est ravis de ce qu'elle nous a donné depuis si longtemps.
Et
il y a quelque chose qui est là, qu'on embarque avec nous, et qui...
Qui met les larmes aux yeux, d'une certaine manière. Il faut dire...
Et alors, on peut appeler ça un public acquis, j'ai entendu des gens dire ça. Et il y a un truc qui m'a frappé, juste un dernier mot, c'est que j'ai vu des gens de ma génération, et ils n'étaient pas avec leurs enfants, mais avec leurs petits-enfants.
Oui,
ils viennent donner...
Autre chose qui m'a frappé, c'est l'extrême jeunesse de ce public de théâtre, ce qui n'est pas le cas dans tous les théâtres parisiens ou ailleurs qu'à Paris d'ailleurs. L'extrême jeunesse de ce public, hier soir, il y avait beaucoup de jeunes gens qui n'avaient jamais vu aucune pièce d'Ariane Mouchkine et qui ressortaient absolument ravis, il faut le noter. Et puis cet humour par rapport aussi au théâtre soi-même, cette actrice qui n'arrive pas à bien jouer parce que, dit-elle, mes grands-parents n'ont pas été déportés à Auschwitz. Nous portons même pas de lunettes. Nous avons tous une dentition parfaite. Comment penses-tu que je puisse devenir une actrice avec tout ce bonheur, dit-elle.
C'est le Noyer Blues de Gilbert Lafay.
Ouais, c'est ça. Victor Vassel-Épinay, un dernier petit mot. Et puis, Étienne Anaïm, pour conclure, sur La Chambre en Inde.
En effet, ce qui semble très important, c'est cette catharsis théâtrale qui est elle-même finalement mise en scène et questionnée. Et ça m'étonne qu'à moitié, Scarlett vient de nous dire sur Ariane Mouchkine qui disait que l'histoire ne servait à rien, puisque au cœur de cette pièce, ça ne nommait pas le théâtre grec, c'est le théâtre indien du Thérukuttu dont on a parlé, avec le Mahabharata, et qui est une sorte de matrice qui se reproduit sans cesse, et la question centrale, à mon avis, c'est la mise à distance il y a une distance géographique, ils sont en Inde, comment est-ce que on réduit cette distance, ou est-ce que, il y a cette distance qu'il faut prendre quand on fait du théâtre, le metteur en scène, Lear, qui prend les attentats en pleine figure, en fait, qui pète les plombs en Inde, qui se retrouve tout nu sur la statue de Gandhi en appelant Artaud à son aide. Mais il y a aussi cette distance de l'histoire, cette distance d'une certaine histoire qui se rejoue sans cesse avec ses mythes.
Oui, mais qui disparaît parce que les Indiens ne veulent plus aller voir leur propre théâtre traditionnel. Non, donc le théâtre en ruine.
Ils ne veulent plus aller le revoir, mais ils le rejouent parce qu'on voit dans l'aujourd'hui de la pièce un père qui veut marier sa fille de force, etc. Et avec des figures théâtral de l'ivrogne du.
Oui, tout à fait. Mais quand je disais ravi, en fait, c'était au sens le plus fort, c'est-à-dire c'est le ravissement. On est emporté. Ouais. Et une des raisons pour lesquelles on est emporté, je finis juste là-dessus, c'est parce qu'effectivement, elle rit des méchants, mais elle rit aussi d'elle-même. Et alors, ça, c'est, je trouve, une force extraordinaire de la pièce.
Parce qu'évidemment, c'est-à-dire Cornelias, c'est.
Voilà.
Enfin, quand on la voit sur scène, l'actrice.
C'est elle.
Et c'est elle. Voilà.
Et par ailleurs, c'est nous aussi, dans le sens où elle sait bien qu'une partie des références culturelles sont partagées par son public et elle se moque aussi de nous. Enfin, elle se moque et elle rit de tout et elle rit avec générosité, ce qui fait qu'on ne, malgré tout ce qui déborde dans la pièce, on ne peut pas ne pas être emporté.
Oui, il faut dire tout de même qu'on est très loin d'un certain rire et d'une certaine ironie que l'on pratique beaucoup depuis pas mal d'années, en particulier sur les chaînes de télévision. C'est un rire franc et généreux, il faut quand même le dire. Et puis, pour Pierre-François Souriri qui a ouvert cette émission, disons aussi qu'il y a la présence du théâtre japonais, du No et du Kabuki, qui lui aussi se demande s'il va survivre. Félicitons donc l'ensemble de cette troupe du Théâtre du Soleil, avec Hélène Saint qui joue en particulier Cornelia, qui est là présente du début jusqu'à la fin, mais l'ensemble de cette troupe, une quarantaine de danseurs, musiciens, acteurs, et cette capacité qu'elle a, cette troupe, à nous ravir, évidemment, comme vous venez de dire, Étienne Anaïm, à chaque fois qu'on va la voir.
France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Deuxième fiction d'histoire dont nous parlons dans cette table ronde, fiction mensuelle de la Fabrique de l'Histoire, avec Arlette Farge, Étienne Anaïm, Fabrice Dalméda et vous-même, Victor Massé-Lépiné. Ça s'appelle Le Sourire des Marionnettes. C'est une réédition augmentée, différente de l'édition originale chez Delcourt, d'une œuvre de Jean Dittard.
Oui, l'intrigue se passe au XIe siècle en Iran.
Une bande dessinée.
Et commence avec l'assassinat du grand vizir Nizam al-Mulk. Ce grand vizir était l'ami et le protecteur de l'astrologue, érudit et poète Omar Khayyam, qui est aussi et surtout un libre penseur, amateur de vin et amateur de la sensualité non dissimulée de sa femme Shirin. Alors quand le calife Malik Shah, des Turcs Seljoukides, qui était lui-même le supérieur en quelque sorte du grand vizir Nizam al-Mulk, est aussi assassiné, Omar, qui est le héros du livre, comprend qu'il doit fuir car sa conduite et son impiété peut-être le mettent en danger. Et il va se retrouver chez le commanditaire de ces assassinats, qui se trouve être un de ses amis de jeunesse, Hassan ibn Sabah, le fondateur de la secte des assassins, qui veut donc rétablir le chiisme dans toute la région sous la coupe, je l'ai dit, des Turcs Seljoukides, donc sunnites. Donc on a une bande dessinée de dialogue essentiellement avec un graphisme dont on va certainement parler, un graphisme très original, directement inspiré des miniatures persanes et qui confère à l'ensemble de l'œuvre ce côté théâtre de marionnettes avec des cadres qui emprisonnent, qui contraignent les personnages. Je dis emprisonne parce qu'au cœur de cet album de bande dessinée, il y a la question de la liberté qui se pose, la liberté des personnages, la liberté supposée, la liberté des assassins qui sont endoctrinés. Voilà, c'est une jolie bande dessinée et j'espère, enfin, on va voir ce que vous en avez pensé.
Le sourire des marionnettes de Jean Dittard, Étienne Anaïm. Alors, on sait que la figure, en l'occurrence, de Ibn Saba et donc de la secte des assassins est une figure assez régulièrement reprise par les ouvrages de fiction. On peut citer le Alamout, qui était un ouvrage assez ancien, mais aussi évidemment Amin Maalouf et bien d'autres auteurs, et en particulier la vidéo et le jeu vidéo, puisque effectivement ça a donné l'idée à des créateurs de jeux vidéo de faire de ces assassins des personnages de jeux contemporains. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce sourire des marionnettes de Jean Dittard, publié chez Delcourt?
D'abord, j'ai pensé comme Victor que ce qui était le plus frappant dans cette bande dessinée, c'était sa beauté plastique. Et c'est très intéressant pour un historien de voir un dessinateur qui se réapproprie des codes visuels qui sont ceux de la culture persane, alors plutôt même un peu plus tardif pour cette miniature, mais pour dessiner et pour mettre en scène les personnages. Donc là, il y a une beauté plastique qui est, à mon sens, la plus grande séduction du volume. Après, quand on est historien, puisque c'est la thématique de ces tables rondes, de lire aussi, parce qu'on peut les lire comme amateur et puis on peut les lire comme historien. Alors quand on est historien, ça m'a inspiré une autre réflexion. Les assassins, c'est effectivement cette secte qui est devenue une sorte de mythe historiographique et puis de mythe politique. La première édition date de 2009. Et alors là, aujourd'hui, on lit à l'automne 2016 une histoire dans laquelle on nous raconte qu'un personnage drogué arrive au milieu du camp et assassine un grand vizir avec le sourire aux lèvres. Et tout le monde est stupéfait au XIe siècle de cet attentat suicide, puisque l'assassin est lui-même exécuté dans la foulée. Alors évidemment, passé ce qui s'est passé ces dernières années, et en particulier on revient aux attentats de novembre dernier, il y a un effet stupéfiant là. Et ça fait réfléchir à l'histoire. Pourquoi ? Parce que ça montre, si vous voulez, que le présent requalifie et transforme le passé.
Ça s'appelle la fabrique de l'histoire.
Et c'est vraiment très important à comprendre, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque chose dont on croit qu'il ne change pas, le passé, une bande dessinée de 2009, mais quand on la lit en 2016, elle a changé. Elle est la même, mais elle a changé parce qu'aujourd'hui, on n'y lit plus seulement l'objet qui est le déterminisme, la liberté, les libres penseurs, mais on y lit quelque chose qui, évidemment, rentre en écho avec notre actualité tragique.
Arlette Farge, à propos de cette bande dessinée, Le sourire des marionnettes, signé Jean Dittard chez Delcourt, dans la collection Mirage.
C'est une bande dessinée que j'ai trouvée absolument fascinante, par son esthétique, cette volonté de s'inspirer des miniatures, effectivement. Et donc, ça donne une force très très grande, même au récit qui est à l'intérieur. Et d'autant plus que je ne sais plus comment il s'appelle.
Jean Dittard.
Oui, pardon. Vraiment, il y a des moments extraordinaires dans sa bande dessinée, où il réussit à faire des rêves, à dessiner des rêves qui sont eux-mêmes la réalité, dans des mouvements de dessin qui sont, moi j'ai trouvé, particulièrement extraordinaires. Alors j'ai été, comme Étienne, totalement sidérée par, effectivement, l'actualité non actuelle, l'actualité de l'événement, avec cet assassinat devant nous, et donc de se retrouver, je me disais, mais alors moi j'ai eu une drôle de réflexion. Je me suis dit, au lieu de vous, je me suis dit, mais tout recommence, alors que vous venez de dire, tout est différent. Et c'est ce qui peut donner un débat intéressant. Et en même temps, bon, cette espèce de beauté aussi, de l'amour entre les deux personnages,
ah oui,
qui est vraiment très bien traité, qui est étonnante aussi, et qui court tout au long, malgré certaines ruptures, tout au long de la bande dessinée. Je trouve assez émouvante, et avec l'acceptation de cette femme qu'ils partent très loin et qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils reviennent. Voilà, c'est quelque chose c'est une bande dessinée qui, en même temps, je crois, elle est quand même difficile. Je dois dire, elle est quand même difficile à suivre. Enfin, c'est pas simple, ça se lit pas comme Tintin, quoi. Non, mais c'est vrai. J'aime bien Tintin, mais je veux dire, et c'est aussi ce qui m'a plu, c'est que là, on entre dans un univers où il faut absolument réfléchir dessin après dessin. Et c'est très impressionnant.
Fabrice Dalméda, à propos du sourire des marionnettes de Jean Dittard, publié chez Delcourt.
Ben effectivement, ce qu'il y a de très frappant, c'est la forme. Et c'est vrai que Jean Dittard est, j'allais dire, non seulement un dessinateur, mais c'est aussi un enseignant, c'est quelqu'un qui réfléchit à cette production et à la nature même de la façon d'exprimer. Et donc on voit que le travail pour essayer de coller avec un certain style, effectivement iranien, plutôt moderne, je pense, que médiéval, est extrêmement fascinant. Et ça donne en même temps une réflexion sur les mots, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une économie et qu'il y a même une volonté profonde de réduire la place du texte de manière à ce que l'image puisse exprimée par elle-même.
Donc sauf quand le chef de la secte des assassins retrouve Omar Khayyam, et là on est au cœur effectivement de ce que disait Victor, c'est-à-dire ce moment où l'un et l'autre débattent comme des philosophes, pourrait-on dire, de ce qu'est la question de la liberté. Mais c'est vrai que
mais
tout
ça
le reste,
fait partie de cette économie, voilà, justement, et de la place qu'il accorde à la poésie, justement,
absolument,
par rapport à Omar Khayyam, qui nous est beaucoup connu pour ça quand même. Mm-hmm. Donc ça, je trouve que c'est ce qui est vraiment réussi. L'aspect qui est plus discutable, bon, c'est justement cet effet de rencontre historique, de solidarité, etc., où là, on est plus dans la fiction que dans le réel. En revanche, effectivement, la correspondance avec aujourd'hui, moi, ce que je trouve extrêmement intéressant là-dedans, c'est que la secte des assassins, et le livre le montre bien, il y a ce principe qui va créer une fraction de paradis sur Terre, mm-hmm, où il va emmener ses fanatiques pour leur dire, ben voilà ce que c'est que le paradis, et leur créer l'illusion qu'ils y sont vraiment. Mm-hmm. Et je trouve que ce moment de déplacement que lui seul, le chef de la secte, sait qu'ils sont dans la vie, mais que eux, normalement, étant drogués, étant sous l'emprise du hashish, étant avec des femmes qu'ils n'ont jamais connues, étant vierges, n'ayant jamais connu le plaisir charnel, peuvent se penser effectivement dans un ailleurs qui serait la vraie vie réussie. Et quand on réfléchit à tout ce qu'on nous raconte justement sur les fanatiques, la motivation par le paradis, les 72 vierges, pour faire une référence à Ariane Mouchkine, c'est pas 75, c'est pas 70, c'est 72. Donc il y a là-dedans quelque chose d'effectivement très fascinant et en correspondance avec ce qu'on vient de lire, parce qu'on s'est tous soudainement depuis quelques années, enrichis culturellement sur l'islam.
Oui, en l'occurrence, Étienne Anaïm, un mot à rajouter sur le sourire des marionnettes de Jean Dittard. Donc, il faut dire qu'il renvoie Jean Dittard à son site internet qui est extrêmement fourni et au travail qu'il a fait justement de préparation pour pouvoir ainsi comparer les miniatures qu'il a utilisées et dont il s'est servi d'une certaine façon comme modèle pour certaines des planches de cet album de bande dessinée.
Un dernier mot peut-être pour la figure d'Omar Khayyam elle-même, parce que la bande dessinée permet aussi de découvrir cet homme mathématicien, astronome, poète. Il y a beaucoup de ses poèmes qui sont cités à l'état de fragment ou à l'état intégral. Et alors, je trouve aussi que ça mérite le détour pour cela, parce que c'est un personnage tout à fait magnifique du XIe siècle. Et d'ailleurs, Marguerite Yourcenar raconte dans les carnets des mémoires d'Adrien que si elle n'avait pas écrit sur Adrien, en fait, le personnage avec lequel elle a hésité, c'était Omar Khayyam.
Et puis, on peut dire effectivement que cet Omar Khayyam, donc, dont vous parlez, poète, astrologue, conseiller des princes, était très en cours dans des régimes laïques des pays arabo-musulmans. Je me souviens d'être allé en 1987 en Irak, et qu'en Irak, effectivement, Omar Khayyam avait sa statue, il était très présent. Effectivement, aujourd'hui, il l'est peut-être un peu moins dans beaucoup de ces pays qui considèrent que, justement, sa pensée, son écriture, ses poèmes et le vin sont justement hérétiques. Il faut donc aller voir Le sourire des marionnettes, donc cette bande dessinée de Jean Dittard. Un dernier mot, Victor Massel-Lépinet ?
Non, j'aurais voulu avoir, mais c'est peut-être trop tard, un mot des uns et des autres sur la fin sur l'épilogue de cette aventure.
On ne raconte pas les fins.
On raconte pas les fins, mais en tout cas, dire que cette question de la liberté qui est posée dans le dialogue avec Ibn Saba devant ce jeune endoctriné à coups de vin et de femmes, pose des questions terribles à Omar Khayyam, qui finalement se dit, moi, c'est ma vie quotidienne. Ce qu'on leur vend comme du paradis, du vin et des femmes, c'est ce que j'ai tous les jours. Et finalement, ça l'ébranle peut-être plus que ce que ça pourrait ou ce que ça devrait.
Merci beaucoup pour ce sourire des marionnettes de Jean Dittard, publié chez Delcourt. ليلة حرق اطي قلبي رد السلام علي قوم العبي لعبتلك حلق ألماس جبتلك خليتي قيس مجنونك وتبحتي برمش عيونك composition de Bachar Markalif qui a composé la musique de Go Home, donc le dernier film de Jian Schweb que vous nous présentez, qui sera le dernier objet d'histoire de cette table ronde fiction aujourd'hui. Victor Massé-Dépiné.
Oui, le film se passe de nos jours. On suit une jeune femme, Nada, qui revient au Liban dans sa maison d'enfance qui était celle de son grand-père et dont elle hérite au début du film. Son grand-père qui a disparu pendant la guerre civile. Et depuis la guerre civile, la maison a été abandonnée, le jardin fait office de décharge municipale où en tout cas tous les voisins y déposent leurs ordures, la maison a été taguée. Et Nada arrive là avec la volonté de s'y installer, de récupérer cette maison et de comprendre aussi ce qui s'est passé dans cette maison et ce qu'est devenu son grand-père. Elle sent dans les regards et des autres villageois ce qu'elle perçoit, ce qu'elle sent comme de l'hostilité. À un moment, quand elle est dans la maison, il y a ce « go home » marqué sur le mur, « rentre chez toi », qui semble conforter cette impression. Et puis, donc, elle s'installe là. Son frère arrive avec lui pour mission de vendre la maison. C'est leur père qui l'a missionné pour vendre la maison. Mais Nada refuse, parce qu'elle refuse d'oublier, en fait. Elle ne veut pas oublier, alors que tout le monde autour d'elle semble vouloir oublier ce qui s'est passé pendant la guerre civile. Un oubli qui pourrait être la condition peut-être d'une réconciliation. Nada, elle, veut chercher dans ses souvenirs d'enfance. Donc ce film, c'est à la fois le portrait d'une maison, mais surtout le portrait d'une femme qui recherche la vérité, qui se recherche elle-même et qui se demande quelle vérité on peut accorder à des souvenirs d'enfants.
Go Home, donc le film de Jian Schweb. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Arlette Farge?
Alors pour moi, c'est un film que j'ai ressenti comme très étrange. Très étrange et en même temps très, très profond et par moments énigmatique. C'est un film qui touche énormément et qui par sa forme même, la forme employée par la réalisatrice, est très particulière puisqu'elle est constituée beaucoup de flashbacks qui viennent ponctuer le récit. Et en même temps, il y a quelque chose d'extraordinaire chez cette femme qui revient en effet et qui tient absolument à sa maison et à ce que sa maison reste une maison habitable, mm-hmm. ou tout du moins une maison qui a existé. C'est que en fait elle cherche une énigme, c'est celle de son grand-père qu'elle a tant aimé, qui revient dans ses rêves constamment, et donc on la revoit petite avec ce grand-père qu'elle a aimé et dont elle cherche le mystère de la mort et le corps. Elle est même pas sûre qu'il est mort, elle veut s'en assurer. Donc c'est un film qui est moi j'avoue que j'ai été pas envoûtée, ce serait exagéré, mais très emportée, et en même temps je comprenais pas tout. Je trouvais qu'il manquait quelque chose de pédagogique, c'est peut-être de nous expliquer mieux quelle était la situation du Liban qu'elle avait quitté et celle qu'elle retrouvait, notamment justement dans un épisode très très touchant où elle rencontre une Palestinienne qui est réfugiée qui est au Liban et qui lui montre au loin la Palestine et qui lui dit mais moi c'est le contraire, j'y retournerai jamais. Et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de spectateurs qui pourront pas comprendre tout s'ils ne sont pas des spécialistes de la guerre du Liban. Néanmoins, je trouve que c'est un film qui a d'abord des plans magnifiques, qui est très beau. Des acteurs, les trois acteurs essentiels sont très intéressants. Je ne vais pas raconter la fin ni ce qui est devenu le grand-père, parce que ça serait dommage. Mais il y a quelque chose d'une recherche de soi chez Nada, extrêmement profonde et qu'elle nous fait partager avec émotion réellement.
Go Home, donc le film de Jian Schweb. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Fabrice D'Almeda?
Beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Et comme l'a dit Arlette, c'est un film, je crois, sur la reconstruction. C'est-à-dire sur un personnage qui est persuadé qu'en revenant dans son pays d'origine, en retrouvant sa maison initiale, celle d'où elle est partie de manière un peu hâtive pour suivre son père qui avait choisi l'exil, en reconstruisant cette maison, elle espère aussi se reconstruire. Mais en reconstruisant, on creuse. En creusant, on tombe sur le secret de famille. Et comme toujours, le secret de famille n'est peut-être pas celui que l'on croit. Et donc, le personnage se reconstruit. Alors, ce film a une qualité qui est en même temps son pire défaut. Alors, sa qualité, c'est Goldshifteh Farahani, qui est une actrice exceptionnelle, que j'adore, qui dans ce film a un naturel, voilà, qu'on a déjà vu plusieurs fois au cinéma, et qui est d'une beauté. Alors j'allais dire c'est une vierge quattrocentesque, je ne sais pas, mais enfin elle est extraordinairement belle et avec un visage où tout passe, où tout se reflète comme presque le vent et les nuages sur un paysage de la Renaissance. Mais c'est son principal défaut, c'est que je crois que la réalisatrice, elle aussi était fascinée par son visage et qu'il y a un nombre de gros plans où on passe, où on est avec elle. Alors effectivement, le gros plan nous permet peut-être de penser qu'il se passe quelque chose dans sa tête. Mmh. Mais en même temps, ça fait qu'on a une certaine forme, disons, de narration qui par moment est un peu perdue. Donc voilà, c'est à la fois un compliment, un gage d'admiration et en même temps un petit clin d'œil sur la lenteur du récit.
Etienne Anaïm, à propos de Go Home, le dernier film de Jian Schweb, j'ai cru comprendre que dans nos trois choix, les rêves tenaient beaucoup de place, aussi bien chez Mnouchkine que pour la bande dessinée Le Sourire des Marionnettes, et que pour ce Go Home, rêve, cauchemar, c'est-à-dire la réalité, et
rêve, effectivement,
mémoire, voilà.
Effectivement, les rêves, les femmes aussi, et les rêves des femmes. Et c'est une des très belles choses dans ce film, de voir ce personnage féminin, effectivement, peut-être surexposé, comme Fabrice vient de le dire. Moi, ça m'a pas frappé, mais qui projette ses rêves et qui donne aussi au film, au départ, sa forme politique. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement une femme très belle, c'est aussi une femme qui met en mouvement des secrets de famille, une vie locale, familiale, et il y a quelques scènes qui sont juste évanescentes, mais où on voit les hommes du village la regarder, la suivre. Disons qu'il y a une
la
construction,
mobilette.
Voilà, la mobilette derrière elle. Il y a une construction de cette force de la figure de Goldshifteh Farahani qui est extrêmement impressionnante au début du film et qui participe à la beauté crépusculaire du film. C'est un film qui est d'une grande beauté. Mais effectivement, il a un caractère énigmatique, c'est-à-dire qu'on se demande à un moment donné où va le film. Et de cette base politique, où on croit que c'est un film sur le Liban, la guerre, les disparus, et ça c'est très beau aussi au début du film, la question de ces sociétés dans lesquelles des gens ont disparu. On pense au dernier livre d'Esteban Bourg sur l'Argentine, où là aussi on a ces disparus qui sont finalement une plaie ouverte.
17 000 au Liban.
C'est ça, 17 000 au Liban, 3 ou 4 000 en Argentine. Mais ce film politique devient petit à petit un film intime, un film intime qui se révèle effectivement, si je l'ai compris, et je l'ai compris comme Fabrice, finalement un film sur un secret de famille et non pas sur c'est-à-dire une recherche des origines qui devient autre chose que ce qu'on croyait.
Enfin, le secret de famille est très étroitement lié à la politique, il faut le dire. Mais la manière dont on en parle du film, faut quand même, il y a une maîtrise de la narration qui est exceptionnelle. Enfin, moi, je tiens à le dire parce que on part dans une direction, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et je dois avouer que ça ménage des suspens et on est en attente. Alors à la fois c'est un film esthétique, mais en même temps c'est un vrai film de presque policier.
Un dernier mot.
Oui, puis ce secret de famille et ces souvenirs d'enfance, il faut dire qu'ils sont contradictoires. En fait, on a la même vision qui revient plusieurs fois, avec à chaque fois une petite variante. Alors on se demande si la deuxième fois on se dit tiens, en fait ça s'est passé comme ça, puis en fait il y a une troisième, une quatrième, et on ne sait pas bien la vérité jusqu'à la fin. Et on se rend compte en tout cas de l'importance que peut avoir un souvenir d'enfant un peu déformé dans la construction de la personnalité de Nada adulte. Puisque...
Mais Victor, est-ce qu'on serait d'accord même sur la fin?
Oui, mais en ce sens, c'est un grand film freudien. Parce qu'en fait, c'est un film où le souvenir d'enfance est revu 4 ou 5 fois différemment, et c'est extraordinaire ça.
Oui, avec la variante qui, d'une certaine façon, est aussi le propre des historiens et historiennes que vous êtes. Donc, l'analyse des variantes pour pouvoir voir les différentes versions d'une même histoire. C'est donc dans Go Home, le film de Jian Schweb. Je rappelle que dans cette table ronde de fiction, nous avons parlé de ce Go Home, donc film du Sourire des Marionnettes, donc une bande dessinée signée Jean Dittard. Noir et de la dernière création de Ariane Nouchkine et du Théâtre du Soleil à Cartoucherie de Vincennes, Une chambre en Inde. Vous aviez un petit coup de cœur?
Ouais, un petit clin d'œil à un ami, à Frédéric Couder, qui a sorti un roman policier qui se passe à Cuba, qui s'appelle Le jour se lève et ce n'est pas le tien, et qui au fond raconte là aussi une quête intérieure, une recherche des origines, puisque le personnage principal, Léonard, donc part à Cuba pour essayer de retrouver son passé familial, et effectivement il va se retrouver à voir ce qu'a été la révolution castriste à partir de ce régime dictatorial de Batista.
Rappelez-nous le titre.
Frédéric Couder, le jour se lève et ce n'est pas le tien.
Étienne Anaï.
Alors moi aussi, je reste dans les souvenirs d'enfance et dans l'Orient avec un très beau livre sorti le mois dernier chez Actes Sud, L'Orient derrière soi par André Tuboeuf. Alors André Tuboeuf, c'est un des plus grands critiques musicaux français vivants, un des grands critiques musicaux du XXe siècle.
Et là, il est héritier d'une famille qui vient d'Orient.
Absolument.
Justement.
Et là, il écrit un livre qui n'a rien à voir avec son travail musical, mais qui raconte ses 15 premières années où il est né à Smyrne et ensuite il a vécu au Levant. Et il raconte cette histoire d'enfance qui est l'histoire de sa communauté française d'Orient, c'est-à-dire un Français hors de France. Et c'est une histoire extraordinaire, lumineuse, nostalgique, mais très belle parce que jamais empreinte d'une tristesse d'un monde perdu. C'est-à-dire que ce qu'il montre, et c'est le sens de L'Orient derrière soi, c'est la force prodigieuse que lui a donné cette expérience de la Méditerranée pluriculturelle des années 30. C'est magnifique.
Et il faut aussi compléter par la lecture d'un très beau roman qui est en poche depuis très longtemps, qui s'appelle Mazag, qui est un roman de Robert Solé qui raconte un peu la même histoire, c'est-à-dire comment un Alexandrin se retrouve dans les années 50 et 60 en France, et donc à partir de son histoire alexandrine et de ses réseaux alexandrins, devient quelqu'un qui rentre dans la société française. C'est aussi un beau roman. Le titre du texte de André Tuboeuf.
L'Orient derrière soi.
Comme d'habitude, cette émission de La Fabrique de l'Histoire avait été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Jean-Frédéric était avec nous à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Si vous voulez l'écouter, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Vous pouvez aussi télécharger séparément de l'émission du jour la chronique donc sur le petit précis d'histoire à l'usage des politiques qui a été aujourd'hui prononcée et écrite par Pierre-François Souiri, spécialiste du Japon. La semaine prochaine, nous allons parler d'histoire de l'énergie. On sait qu'aujourd'hui le prix du pétrole est en train de réaugmenter. Nous parlerons pétrole dans cette semaine, mais nous parlerons également électricité lundi et mardi. Et pour faire plaisir à Étienne Anaï, nous parlerons de l'énergie des moulins au Moyen-Âge. Y a-t-il eu une révolution des moulins au Moyen-Âge ?